bien comprendre le processus de l'ACTA avant de parler de son contenu. Le processus de l'ACTA, c'est 13 parties, dont l'Union européenne et ses 27 États membres, qui se disent on va se mettre autour d'une table entre pays qui pensent à peu près pareil. Et là, ce n'est pas mes mots, c'est ceux du USTR, le US Trade Representative, donc le représentant au commerce américain qui est chargé des négociations, qui a dit « between like-minded countries ». Donc on se met entre potes autour d'une table. Je rappelle qu'il y a une institution qui s'appelle le WIPO, le World International Intellectual Property Organization, qui sert normalement aux discussions internationales sur les questions de droits d'auteur, de brevets et de droits des marques. Et donc là, l'idée, c'est on va pas au WIPO, parce que justement, au WIPO, ça fait quelques rounds que les pays du Sud, Amérique latine et Afrique en tête, commencent à râler et à se dire « Attendez, vous êtes en train de totalement nous arnaquer depuis des années, ça va plus se passer comme ça. » Que les pays du Sud demandent de nouvelles exceptions au copyright et au brevet, et qu'il n'y a pas consensus pour aller toujours plus loin vers la répression, comme c'était le cas jusqu'au début des années 2000. Et donc, vu que ça bloque dans une instance à peu près démocratique et à peu près transparente, où tout le monde participe, on va créer une autre instance. Et celle-ci, elle ne sera pas démocratique et pas transparente, comme ça on pourra avancer. Et c'est ça l'ACTA. Et c'est avant tout pour ça que c'est choquant. Et donc, quel que soit le contenu de l'ACTA, plus on mettra la pression, plus on arrivera à dégager des points qui nous posent problème. Mais pour autant, le résultat final ne sera jamais légitime parce qu'il sera le fruit d'une volonté manifeste de contourner les instances démocratiques et transparentes. Et encore, on pourrait parler de l'aspect démocratique et transparent du WIPO. Hein. C'est pas pour vanter le WIPO comme un modèle de vertu. Mais déjà que le WIPO, c'est pas forcément satisfaisant, là, on veut encore aller plus loin. Voilà.
C'était un peu le même modèle de l'accord multilatéral sur investissement, l'AMI, à la fin des années 90.
Alors, je ne connais pas les détails, mais effectivement, il y a de grosses ressemblances entre l'AMI et l'ACTA. Et on a vu un peu les mêmes acteurs, enfin, certains acteurs en commun qui s'étaient élevés contre l'AMI, qui s'élèvent aujourd'hui contre l'ACTA. Catherine Trautmann, d'ailleurs, qui à l'époque s'était élevée contre l'AMI, aujourd'hui.
Strauss-Kahn avait dit l'AMI, nous le signons.
Ah!
Est-ce qu'il s'est exprimé sur l'ACTA ?
Non, mais il n'y a pas grand monde qui s'exprime sur l'ACTA. On a l'impression que c'est un petit peu un sujet tabou. Je discutais avec l'assistant parlementaire de Nicolas Dupont-Aignan qui est venu hier au RMLL. Et Nicolas Dupont-Aignan a posé une question écrite au ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, disant « Voilà, il y a ce truc en cours de négociation, vous pouvez nous répondre sur tel et tel et tel point ?» Ça fait, je crois, 8 mois, il n'y a pas eu de réponse. Donc il y a un silence assez oppressant autour de l'ACTA et on n'a pas initié la bataille de l'ACTA. Ça fait un certain temps que des assos américaines en parlent et tout. Et bon, on s'est rallié à un fond très très large qui va de la Nouvelle-Zélande au Canada, des associations de geeks aux associations de l'accès aux médicaments.
Alors attends, parce qu'on n'a pas fini peut-être la présentation de l'ACTA en entier. On va vers quoi avec l'ACTA ?
Alors,
enfin, quelles sont les intentions des membres ?
Initialement, l'ACTA, c'est donc l'accord commercial anti-contrefaçon. C'est donc un accord entre diverses parties pour régler les questions de contrefaçon entre eux, donc les contrefaçons aux frontières. Donc initialement, c'était pouvoir aux frontières contrôler les questions de brevets et de droits des marques. Et c'est là qu'il peut y avoir un impact très pesant sur l'accès aux médicaments, notamment dans les pays les plus pauvres. Je fais une parenthèse là-dessus. Mais l'idée était de pouvoir aux frontières mettre en œuvre le droit des brevets du pays de transit. Donc imagine, tu es l'Inde, tu fabriques des médicaments génériques et sous une licence obligatoire. Depuis les accords de Doha, un gouvernement peut dire il y a un problème de santé publique, notamment avec le HIV, donc tel et tel et tel brevet, chut, licence obligatoire, open bar, tout le monde y va. Donc l'Inde produit des génériques HIV comme ça.
Sans payer la licence.
Licence obligatoire, donc ça veut dire tout le monde a la licence. Sans avoir besoin de payer. De l'autre côté, il y a le Brésil qui dit « Bah oui, nous aussi, on a des milliers de gens qui meurent, donc licence obligatoire. » Et là aussi, c'est parfaitement légal selon les accords internationaux. Donc l'Inde va envoyer des médicaments au Brésil. Les médicaments s'arrêtent à Rotterdam. Et là, il y a un douanier qui « Hop, et vous là, oh, Rotterdam, Pays-Bas, Europe, Il est où le brevet? Bah, il n'y a pas de brevet. Doha ici, Doha là-bas, licence obligatoire, licence obligatoire. Oh, bah, je ne veux pas le savoir, mon bon monsieur. Le droit des brevets à la frontière, c'est très sérieux. Et on se retrouve à avoir des cargaisons potentiellement saisies, potentiellement détruites, des comptes en banque bloqués. Alors quand on en parle avec les gens des services concernés, ils disent non, mais jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, c'était juste 10 jours plus 10 jours, il y a eu tel cas où c'était une erreur, c'était un mois, parce que ça s'est déjà passé un certain nombre de dizaines de fois à Rotterdam. Et dans les premières versions fuitées de l'ACTA, on voyait une volonté de généraliser ça. Donc ça donne une idée du genre de mesures qu'il peut y avoir dans l'ACTA, aux frontières des mesures qui renforcent la mise en œuvre du droit des brevets, du copyright, etc. Donc il y a aussi un truc qui est très choquant, c'est les injonctions civiles où par les cours civils les signataires de l'ACTA s'engageraient à mettre en œuvre des mesures qui viseraient à faire cesser des infractions, voire à prévenir des infractions futures. Et dès le début dans l'ACTA il y avait été question de parler donc des frontières et d'internet. Internet, nouvelle frontière. Donc comme tout s'est fait dans la plus grande opacité pendant des années, on a été obligé de se contenter de fuites pour savoir ce qu'il y avait dedans. Quand on allait parler avec des officiels, avec les négociateurs, ils nous regardaient de haut, on disait « Ah, mais vos fuites, vous pouvez pas en prouver l'authenticité, on ne sait pas ce qu'elles vaut, ce qu'elles valent, etc. etc. » Et donc, on se faisait prendre de haut, jusqu'à ce qu'il y ait une telle pression sur eux, notamment par l'intermédiaire du Parlement européen, qui a voté une résolution là-dessus, où beaucoup de députés se sont élevés, ont posé des questions orales, écrites au commissaire, etc. Les négociateurs ont discuté et ont unanimement décidé de publier un texte. Donc, c'était fin avril. Où donc on a vu que tout ce que l'on avait observé jusqu'à présent dans les fuites était bel et bien dans l'ACTA. Et alors donc, on pourrait détailler le contenu de l'ACTA, mais ce serait vraiment un petit musée des horreurs. Un truc extrêmement choquant est que bon, c'est la Commission européenne donc, qui négocie pour l'Europe. Donc c'est la DG Trade, représentée par Luc Devigne, qui était ancien chargé de propriété intellectuelle, je crois, à la DG Entreprise. Bref, c'est la Commission qui négocie, normal, c'est un accord commercial, donc c'est la Commission. Mais nous, depuis le début, on dit que ce n'est pas un accord commercial, vu qu'il y a des sanctions, vu qu'on a même vu des sanctions pénales, et justement, c'était mon point. Et on s'est aperçu que récemment, qu'en plus de la Commission, il y avait la présidence, donc la présidence espagnole, avec ce qu'on sait du gouvernement socialiste espagnol actuel, qui est super violent sur ces questions-là, qui, représentant les États membres, à côté de la Commission, est en train de négocier de nouvelles sanctions pénales. Parce que ce n'est pas dans le domaine de compétence de la Commission, mais dans le domaine de compétence des États membres. Donc on a la présidence de l'UE qui va, toute seule, en toute opacité, négocier de nouvelles sanctions pénales. Donc potentiellement des peines de prison et des amendes lourdes. Et là où ça devient croustillant, c'est que ces nouvelles sanctions pénales, c'est des bouts, c'est texto, des bouts dans la position de l'UE, de la directive IPRED 2, dont on parlait tout à l'heure, qui avait été bloquée lorsqu'elle était passée une fois par le Parlement européen, dont on sait qu'elle va revenir par l'intermédiaire du commissaire Barnier, et qui est déjà en train d'apparaître en petits bouts dans l'ACTA. Et donc, c'est des sanctions pénales pour incitation ou aide à contrefaçon. Donc, imaginez un site web qui prendrait des positions politiques et qui dirait « Mais n'achetez pas ces cochonneries de Vivendi Universal, vous avez vu ce qu'ils font à notre Internet, vous avez vu combien ils s'en mettent plein les poches, vous avez vu tout ce que vous payez déjà avec la redevance pour copie privée, en allant dans des bars qui payent la SACEM, etc. etc. Donc, faites comme moi, cliquez ici, thepiratebay.com. Ben, » ce serait pas de l'incitation, ça. On se prendrait pas des lettres de cabinet d'avocats disant « Attention, conformément à l'article machin, vous risquez des peines de prison, j'ai 1 euro d'amende. » Est-ce que ce serait pas dissuasif, ça? Est-ce que ça aurait pas un effet sur la liberté d'expression? Ah, c'est marrant, on n'a pas eu de réponse à ça. On dit, oh, vous inquiétez pas, c'est pénal, donc il y aura des juges. Ouais, c'est ça. Le coup de la lettre de cabinet d'avocat qui fait 12 mètres de long et avec des mots méchants, genre prison dedans, on sait très bien l'effet que ça a. Et donc, en totale opacité, on a la présidence, un des États membres les plus réacs, qui était l'Espagne. Bon, maintenant, c'est la Belgique. On ne sait pas trop encore comment ils vont se comporter.
Ils sont moins réacins, quand même.
Ouais, enfin, les Flamands, on ne sait pas. Mais on avait un État membre comme ça, parmi les plus réacs, qui était en train de négocier en douce des sanctions pénales. C'est totalement inacceptable.
Bon, alors, dans tout ça, encore une fois, comment on fait, à part s'en remettre à la quadrature du net, mais ça, ce serait trop facile et ce n'est pas forcément démocratique.
Ça suffit pas. Voilà.
Mais donc, on a vu les luttes hein, à l'OMC, on a vu les luttes ailleurs, dans ces instances-là, sauf que là, tu le rappelais, c'est quelque chose d'assez opaque. On vient juste d'accéder un petit peu à quelques informations. Donc, comment on fait? On va tous en Suisse là au prochain round
Non, le prochain sera aux US.
Ah oui, donc c'est encore plus loin.
Ça va être un peu plus difficile. Alors, comment qu'on fait ? Bonne question. Alors déjà, il faut noter que depuis, c'était le round précédent à Wellington, en Nouvelle-Zélande, après lequel ils ont publié un brouillon du texte. Et là, après ce round à Luzerne en Suisse, ils n'en ont pas publié. Il y a une des parties négociatrices, peut-être les États-Unis, on ne sait pas, qui s'est opposée à toute publication, donc il n'y aura pas de publication. Et tant pis pour nous. Donc
pas de fuite.
Donc non, pas encore de fuite, pas encore. J'ai bon espoir que ça ne saurait tarder. Donc, que faire ? Évidemment, s'en remettre à la quadrature du net, c'est une très mauvaise idée. Parce que nous, tout seuls avec nos petits bras, on n'y arrive pas. Et comme on a dit tout à l'heure, on peut être à l'intérieur de certaines instances péniblement et 100 fois moins que ceux dont c'est le métier. Mais s'il n'y a pas autour du contexte politique, on n'y arrive pas. Donc c'est ça ma réponse. C'est créer du contexte politique, faire du boucan, parler de l'ACTA, bloguer sur l'ACTA, tweeter, gazouiller sur l'ACTA, interpeller vos élus, interpeller des journalistes et autres influenceurs, si j'ose dire, aller en parler avec les eurodéputés. C'est quasiment terminé, mais leur faire signer une déclaration écrite 12 qui met des lignes, des red lines, comme on dit, des barrières aux négociateurs, et qui est une prise de position purement politique, mais qui s'inscrit dans une espèce de bras de fer entre le Parlement et la Commission et le Conseil. Il faut savoir que le Parlement va, depuis le traité de Lisbonne entré en vigueur au 1er décembre 2009, va avoir à se prononcer sur l'adoption de l'ACTA. Le Parlement va devoir dire oui ou non. C'est pas comme si c'était vraiment démocratique avec un droit d'amendement.
Ça, c'est pour quand ?
Ben, ce sera pour quand ils auront trouvé un accord.
D'accord.
Donc, tout ce qui mettra la pression politique et mettra la pression sur les eurodéputés nous aidera le jour d'un tel vote à ce que les députés rejettent l'ACTA en bloc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va faire du boucan, plus on va commenter ce qu'il y a dedans, plus on va mettre les gouvernements le nez dans leur caca, si j'ose dire, face à leurs responsabilités en disant « Mais vous, là, la France, la ministre de ceci, vous laissez le Conseil négocier en ce moment des sanctions pénales pour incitation et aide. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ?» Donc plus on va les mettre face à leurs responsabilités, plus ça va être dur pour eux d'avancer dans la négociation. Parce que j'en ai parlé avec des gens de la commission à Luzerne, justement. Ils m'ont dit « Oh, vous inquiétez pas, ça on voudra jamais, tel truc pour nous c'est inacceptable, là on bougera pas de telle et telle et telle position. » J'aurais dit « Écoutez, si je devais vous croire, ça voudrait dire que tout ce qu'on est en train de faire, ça vous aide. Et ça vous donne du poids dans la négociation. » Et là, le type que je croyais un peu honnête, vraiment, a eu un petit sourire. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais il a eu un petit sourire. Donc, en mettant la pression, on fait en sorte que les négociations potentiellement n'avancent pas, et pourquoi pas qu'elles échouent un jour.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression à faire sur les multinationales du divertissement, ceux qui sont quand même très souvent derrière des pressions, en tant que consommateurs aussi, on est tous quelque part, alors même si on essaye de réfléchir de plus en plus à des modes de consommation différents, on est, comme tu disais tout à l'heure, consommateur de musique dans un bar, envers qui on va payer la société de droits d'auteur. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression à faire sur ces multinationales qui sont quand même toujours derrière en lobbying ?
Alors j'aime à croire que, comme dirait l'autre, qu'on vote avec notre porte-monnaie. Et donc on peut ne plus acheter, par exemple, si on n'aime pas une boisson américaine sucrée, on se dit qu'on n'en achète plus. Et que si
présente dans les universités à Bordeaux d'ailleurs,
voilà.
Je le signale.
On se dit qu'on n'en achète plus et que si tout le monde fait pareil, un jour il n'y en aura plus. Bon, maintenant en pratique, il y en a quand même beaucoup. Donc c'est un mode d'action. Moi je pense qu'il faut consommer selon son éthique. Maintenant tout le monde n'a pas une réflexion là-dessus et tout le monde ne veut pas forcément s'embêter. On le voit avec les logiciels libres. Je sais pas, tu utilises Flash toi ?
Moi je suis vraiment néophyte en la matière.
D'accord. Bon, moi j'utilise pas Flash, mais même parmi les libristes les plus endurcis, la plupart le font parce que ça n'a pas Flash, tu vas pas sur YouTube.
Non, mais
et
je parlais pas tant dans l'utilisation, je parle vraiment d'écrire des mails, d'inonder des. On a vu récemment Nestlé reculer sur des questions de l'alimentation avec l'huile de palme, commencer à être forcé par leurs consommateurs, justement, qui disaient bah voilà, nous on a envie aussi parfois de continuer à acheter Nestlé, c'est pas mon cas, mais bon. Mais donc on les a vus. À un moment donné, ça les met mal à l'aise aussi.
Je suis pas sûr que la pression directe puisse marcher tant que ça, parce que après tout, c'est pas comme si on cherchait à les convaincre. C'est pas comme s'ils savaient pas. Ils sont parfaitement conscients de ce qui est en train de se passer. Ils veulent récupérer le contrôle d'Internet, comme ils ont gagné le contrôle de la radio et le contrôle de la télé.
Mais d'un point de vue marketing et image, non ?
Je pense que ça va leur coûter, mais c'est pas en allant les voir directement eux. mais de l'extérieur en leur tapant dessus, ça marche. Et le jour où le législateur les écoutera plus, parce qu'il y aura une telle pression politique sur ses épaules, et que dès qu'ils vont arriver avec une nouvelle Adopi 24, un nouvel Acta 12, et un nouveau bidule, un nouveau machin, les gars sont se faire zigouiller les uns après les autres, comme un Renaud Donnieu de Vabre, comme une Christine Albanel, on va voir si Riester se fait réélire, mais imaginez qu'il ne se fasse pas réélire, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui hésiteront avant d'aller faire le godillot sur un machin comme Adopi. Donc en leur collant la pression sur eux, le jour où eux vont dire, le jour où Vivendi va débarquer avec son nouveau projet de loi, non, mais vos trucs là, vous les rangez, ça suffit, quoi, ça va avoir marre, moi je tiens à me faire réélire. Le jour où ça deviendra le bâton merdeux de prendre dans ses mains un projet de loi de ces gens-là, là, on aura vraiment gagné.
Je pense que quand tu disais tout à l'heure sans remettre à la quadrature, oui bien sûr ça suffit pas, mais sans remettre à la quadrature pour savoir quoi faire et comment le faire, là il y a des choses sur le site, comme on approche de l'heure de la fin de l'émission, je pense que effectivement c'est en s'engageant. Moi ce que j'ai fait hier matin, je me suis régalé, hein, même si j'ai cramé mon forfait, bon c'était quand même assez amusant, et puis ça a été utile. Donc après je pense qu'effectivement boycotter tel ou tel produit ou changer ses habitudes consommateurs, bien sûr ça rajoute un petit bidule, mais je pense qu'effectivement qui d'autre que le législateur peut finalement arrêter d'écouter les multinationales, c'est entre eux que ça se passe. Par contre le législateur, lui, sur le législateur le citoyen peut avoir une emprise, et la quadrature en a démontré, et puis d'autres associations on en a démontré la validité, et je pense que c'est vraiment ça qui fait 90% de l'action.
Alors, vous pouvez participer à nos campagnes et à nos appels lorsqu'on dit c'est le moment de dérouler tel argumentaire avec tel ou tel parlementaire. Maintenant, des gens n'ont pas le temps. Ceux qui n'ont pas le temps peuvent nous soutenir financièrement pour nous permettre de faire ça plus longtemps. Et aussi, on doit avoir un flyer qui se balade depuis cette fin d'après-midi. Si vous avez un petit peu de temps mais n'êtes pas à l'aise au téléphone ou n'avez pas envie on peut aussi nous aider en codant. Et en faisant avancer la quadrature par ses nombreux projets, comme Mémoire Politique, comme le Media Kit, comme notre outil de revue de presse, etc. Donc juste en se connectant sur ircfreenode.net et en venant sur le canal dièse la quadrature et dièse lqdn-travail, il y a aussi une liste de discussion, l'URL c'est lqdn.fr/disc-disc. Juste en nous rejoignant et en débarquant en disant voilà, là j'ai une heure devant moi ou j'ai une demi-journée, qu'est-ce que je peux faire pour aider? C'est aussi une façon de faire avancer la quadrature du net et de faire avancer les causes qu'on défend.
Et alors sur l'ACTA, il y a plusieurs sites, notamment aux États-Unis, hein, qui sont assez bien foutus et qui mettent en ligne assez régulièrement des news. Et puis pour ceux qui veulent aller voir en français, il y a un petit truc sur la quadrature, mais aussi chez ACT UP à Paris.
Tout à fait.
Jérémy Zimmermann, merci pour cette demi-heure qui s'est transformée en 60 minutes. On va te laisser aller te désaltérer après cette journée intense. Mais bon, ton métier c'est aussi de parler. Donc tu as un sacré entraînement là-dessus. Je pense que tu t'es pas trop déshydraté, mais
il fait soif.
On va céder la place à l'émission suivante.
Oui, merci. Et puis on se revoit l'année prochaine.